Radio Okapi.
Au sommaire de ce journal, 23e édition de la Coupe du monde de football 2026, la République démocratique du Congo affronte le Portugal demain mercredi dans une rencontre inédite. Une affiche historique qui fait déjà trembler les villes de la RDC mais aussi celles du Portugal. Nous irons à Matadi au Congo central pour les pronostics. L'Assemblée nationale et le Sénat ont finalement adopté le texte définitif de la proposition de loi sur l'organisation du référendum en République démocratique du Congo. Les divergences ont été aplanies par la commission mixte paritaire mise en place après la légère modification apportée par la Chambre haute pour un texte unique. L'invité de ce journal est le vice-doyen chargé de l'enseignement à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kisangani, le professeur Jean-Paul Lisselé. Parle des causes de la hausse des prix des produits alimentaires sur le marché local. Mesdames, messieurs, bonsoir. Vous le savez déjà, la République démocratique du Congo affronte le Portugal demain mercredi dans une rencontre inédite lors de la 23e édition de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards de la République démocratique du Congo défient la sélection du Portugal, une affiche historique qui fait déjà trembler Kinshasa, Mbujimayi, Goma, Mbandaka et Lisbonne. Alors, simple match de prestige ou exploit monumental en vue pour les fauves congolais, la ferveur monte à chaque seconde dans les rues de la RDC. On écoute tout de suite ce que pensent certains habitants de Matadi au Congo central. Ils sont au micro d'Élise Kavira.
Je suis confiant d'abord pour la République démocratique du Congo contre le Portugal. Le match peut se résoudre à un match nul ou soit à une victoire de la République démocratique du Congo.
Nous savons que nous allons gagner. En tout cas, les Léopards vont nous défendre. Pour nous, les pronostics, c'est 3-1. 3 pour la RDC, 1 pour le Portugal.
Je soutiens vraiment les Léopards, étant que Congo, c'est mon pays, je suis congolais. Ça sera chaud dans la RDC contre le Portugal, mais nous allons faire 1-0. La victoire est certaine de notre côté. 1-0.
En tout cas, ce match, je suis sûr et certain qu'on va gagner. Tout le monde est mobilisé et tout, voilà. Et les joueurs sont mobilisés, voilà. C'est sûr et certain vraiment qu'on va gagner. Moi, personnellement, je soutiens les Léopards à 100%. Pour nous, même 1-0, ça nous va. 1-0, déjà, c'est bon.
La RDC n'a pas droit à l'erreur. C'est vrai que nous avons un très bon effectif, de bons joueurs. Mais si les coachs pouvaient bien arranger du côté de l'attaque, ça va vraiment beaucoup nous aider.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont finalement adopté le texte définitif de la proposition de loi sur l'organisation du référendum en République démocratique du Congo. La commission mixte paritaire mise en place après la légère modification par la Chambre haute a aplani les divergences, notamment en vue d'avoir un texte unique. Par conséquent, cette proposition de loi de Paul Gaspard Ngondankoy est prête pour la promulgation par le président de la République. Les détails avec Grâce Amzati Masanzi.
Quelques heures après l'adoption par le Sénat de la proposition de loi sur l'organisation du référendum, députés et sénateurs ont réussi à s'accorder sur une version commune du texte. L'accord porte notamment sur l'exclusion des conseillers communaux de l'Assemblée constituante, instance prévue dans le cadre du processus référendaire et appelée à examiner un éventuel projet de réforme constitutionnelle. Les deux chambres se sont également accordées sur l'abandon du principe de coprésidence de cette structure. Il a ainsi été décidé que l'Assemblée constituante sera présidée par le président de l'Assemblée nationale, assisté du président du Sénat. La version définitive de la loi a ensuite été adoptée par les deux chambres, levant ainsi les dernières divergences qui subsistaient entre elles. Le texte, initié par les députés Paul Gaspard Ngondankoy, doit désormais être transmis au président Félix Tshisekedi pour promulgation. Sur le plan politique, le dossier continue toutefois de diviser. La majorité présente cette réforme comme un cadre juridique destiné à organiser les référendums prévus par la Constitution. L'opposition, notamment la coalition Article 64, y voit en revanche une démarche susceptible d'ouvrir la voie à une révision constitutionnelle et à terme à un troisième mandat présidentiel.
Et pendant ce temps, le sénateur Salomon Idi Kalonda demande au président Félix Tshisekedi le retrait de la proposition de loi sur l'organisation du référendum en RDC. Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État, cet élu de l'opposition estime que cette initiative est non seulement inopportune dans un contexte marqué par la crise sécuritaire dans l'est du pays, mais qu'elle constitue également une faute historique grave. Il considère cette réforme comme une étape vers un changement de constitution et affirme qu'elle pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat présidentiel. Salomon Idi Kalonda exhorte ainsi Félix Tshisekedi à, je cite, « rester du côté du peuple et à sortir par la grande porte ». On l'écoute dans cet extrait recueilli par Grâce Amzati Massanzi.
Monsieur le Président, vous avez hérité d'un nom, d'un combat. En soumettant cette proposition de loi, votre regroupement politique commet un parjure. C'est une trahison à la mémoire des 13 parlementaires, parmi lesquels Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Ces hommes ont bravé la dictature la plus féroce, enduré la prison, les relégations, la torture, pour que le Congo ne soit plus jamais, alors plus jamais, la propriété d'un seul homme ou d'un clan. Comment alors prétendre honorer cet héritage alors que le pouvoir actuel reproduit méthode pour méthode les dérives qu'il avait lui-même dénoncées par le passé? Organiser un référendum dans cet environnement, c'est entériner cette division du pays que rien ne saurait justifier. Vous seul pouvez encore retirer ces textes et éviter à notre pays une crise constitutionnelle grave. Alors l'histoire retiendra, soit que vous avez été celui qui a liquidé l'héritage démocratique de la RDC, soit celui qui, au moment décisif, a choisi la patrie plutôt que le pouvoir.
Et tout à fait autre chose à présent en Nord-Kivu. Au moins 4 villages ont été touchés par des incursions d'hommes armés au cours des 3 derniers jours autour de Kibirizi, en territoire de Rutshuru. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, des dizaines de ménages ont été victimes de cambriolages. Une jeune femme a été blessée par balle et au moins 5 personnes ont été prises en otage. Face à cette situation, la population locale, qui affirme vivre dans la peur, a mis en place depuis hier lundi des mécanismes communautaires de vigilance. Bernard Nyangi pour plus de détails.
Dans la nuit de lundi à ce mardi, le village Kabanda et Kinyati, ainsi que le quartier Rutshuru dans la périphérie de Kibirizi en groupement Mutanda, ont été la cible d'incursions d'hommes armés. Ces attaques sont survenues après un autre incident signalé dans la nuit de samedi à dimanche dans la localité de Bugina, groupement Bambou, et plusieurs autres depuis quelques semaines dans la région. À Kibirizi, des dizaines de ménages ont été dévalisés entre 19h et minuit. Au moins 5 personnes ont été enlevées alors qu'elles participaient à une campagne d'évangélisation organisée par une église locale. Par ailleurs, dans la localité de Bugina, plusieurs habitations ont été cambriolées dans la nuit de samedi à dimanche. Des coups de feu ont été entendus et une jeune femme a été blessée par balle. Selon certaines sources locales, ces attaques sont attribuées à des éléments armés présumés combattants FDLR, encore actifs dans cette partie du territoire de Rutshuru sous occupation de l'F-123. Face à la recrudescence de l'insécurité, des groupes de jeunes organisent depuis lundi des patrouilles nocturnes dans plusieurs ménages. Les habitants utilisent également des ustensiles de cuisine pour donner l'alerte en cas de mouvement suspect pendant la nuit.
En Ituri, par ailleurs, plus de 3000 candidats autodidactes sont attendus à Boga pour la session 2025-2026 de l'examen d'État prévu à partir de lundi prochain. Ils proviennent notamment de Bunia, Mongwalu et d'autres localités touchées par l'épidémie d'Ebola où des cas suspects ont été signalés. Face à cet important mouvement de candidats, les autorités locales s'inquiètent de l'insuffisance des mesures de prévention contre la maladie. Des détails avec Isaac Remoyope.
Chaque année, le centre de passation de l'examen d'état de Boga accueille de nombreux candidats autodidactes venus de différentes localités de l'Ituri. Cette année, près de 3200 finalistes se sont attendus. Plusieurs d'entre eux ont déjà commencé à arriver, notamment à provenance de Bunia, de Mongwalu et d'autres zones affectées par l'épidémie d'Ebola. Mais sur place, les mesures de prévention restent limitées, alertent certaines autorités locales, les préfets de l'Institut de Boga.
3495 candidats qui vont présenter l'examen d'état ici à Boga. Ils viennent d'aller quoi là de Ebola, il n'y a pas de dispositif jusqu'à présent que nous prions qu'on puisse nous appuyer à cet effet.
Pour sa part, le directeur de la province éducationnelle Ituri 1 indique que certaines dispositions sont déjà prises, notamment la limitation à 25 élèves par salle de classe. Il ajoute que des dispositifs de lavage des mains ont été remis aux responsables des centres de passation, Yvon Mouquet.
nous avons demandé une salle de passation n'ait pas au-delà de 25 candidats. Nous avons distribué à tous les centres de passation les dispositifs de lavage des mains.
Par ailleurs, les casques bleus de la MONUSCO déployés à Tchabi ont apporté un appui en mettant à disposition des centres d'examen des dispositifs de lavage des mains ainsi que des thermomètres pour le contrôle de la température des candidats. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Et puis, la journée de l'enfant africain a été célébrée ce mardi 16 juin à travers les continents pour honorer la mémoire des centaines d'enfants massacrés à Soweto en Afrique du Sud. C'était le 16 juin 1976. Dans la province du Lualaba, la présence des enfants dans des sites miniers est préoccupante selon plusieurs spécialistes. Ces enfants exploitent des minerais souvent autour des sites miniers artisanaux. Ils les font souvent pour garantir leur survie et pour souvenir aux besoins de leur famille. L'ONG ERAPI s'est investi dans ce dossier pour sortir ses enfants dans des sites miniers. Paulin Munanga pour plus de détails.
Après une enquête menée par cette ONG dans des sites miniers d'exploitation du cobalt de la ville de Kolwezi, il ressort que les enfants sont présents dans les mines pour diverses raisons. Il y a ceux qui accompagnent leurs parents qui font les petits commerces, surtout dans les sites d'exploitation artisanale. Il y a aussi des enfants qui exercent eux-mêmes les activités des petits commerces et sont exposés au quotidien dans cet environnement nocif. Et il y a des enfants qui travaillent dans les mines. Certains lavent les minerais, d'autres creusent et d'autres encore les transportent. La plupart exercent ce travail comme moyen de survie et d'autres le font avec la complicité tacite de leurs parents. Le coordonnateur national de Rapina SBL annonce que son ONG, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail OIT, a déjà fait sortir plusieurs enfants dans les mines. Albert Ibonga explique comment ces enfants sont réinsérés dans la société.
Nous avions commencé à former certains jeunes à des métiers par le fait qu'ils avaient presque abandonné les études depuis très longtemps. Et là, on avait formé 25 enfants qui avaient été formés à métier et les kits d'insertion socio-économique leur avaient été donnés.
Signalons que les mineurs, garçons comme filles, dont la tranche d'âge varie généralement entre 8 et 17 ans, se retrouvent dans les sites miniers, souligne les Rapina SBL. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Et pendant ce temps, Matadi, au Congo central, de nombreux enfants sourds rencontrent encore de grandes difficultés pour accéder à une éducation adaptée à leurs besoins. La seule école spécialisée de la ville peine aujourd'hui à offrir un accompagnement complet, faute de moyens suffisants. Selon son directeur, plusieurs défis compliquent la prise en charge. Une situation qui affecte non seulement la scolarité de ces enfants, mais aussi leur insertion sociale et leur développement personnel. Les détails avec Élise Kavira.
Dans une société où la parole est le principal moyen de communication, les enfants sourds peuvent rapidement se sentir exclus, parfois même au sein de leur propre famille. Les parents doivent alors y penser la dynamique familiale pour permettre à l'enfant de trouver pleinement sa place et de s'intégrer dans la société. C'est le témoignage de Laurette Luamba, mère d'un enfant sourd.
Chez moi ici, tous les enfants ont appris la langue des signes. C'est pour une meilleure communication entre eux. Alors, aux parents qui ont des enfants sourds, aidez-le en les envoyant à l'école pour qu'ils bénéficient des mêmes opportunités que les autres.
Pour sa part, le directeur Giscard Massémi insiste sur l'importance des services d'accompagnement pour aider les enfants sourds à apprendre et à s'intégrer pleinement.
Dans l'enseignement spécial, il y a beaucoup de services qui doivent être organisés. Par exemple, services d'oreille, de logopédie et les services de kiné. L'État doit aussi penser à cela. Sans partenaire, en tout cas, nous aurons d'énormes difficultés.
Toujours dans le souci de faciliter l'inclusion sociale des enfants sourds, le directeur Giscard Massémi invite la population matadienne à suivre les formations en langue des signes organisées à la paroisse Notre-Dame de Fatima, siège de l'école Espérance pour sourds. Matadi, Élise Kavira, Radio Kapi.
Et sous un autre chapitre, à Kinshasa, les embouteillages continuent de compliquer le quotidien des habitants. Entre perte de temps, stress, retard et impact économique, les bouchons sont devenus un véritable défi pour la capitale congolaise. La question a été débattue dans l'émission au Capi Service, où experts, élus et auditeurs ont analysé les causes de cette situation et proposé plusieurs pistes de solutions. Jocelyne Moussa Opondé nous en parle.
Pour le pilote de ligne et expert en transport Serge Ilunga, la situation s'explique notamment par l'insuffisance du réseau routier et la forte croissance démographique de la capitale qui exerce une pression de plus en plus forte sur les infrastructures existantes.
Vous avez la Gombe qui est encerclée par 4 communes. Toutes ces routes-là ont été bien calculées pour contenir les 600 000 habitants qui allaient logiquement à l'époque converger vers le centre-ville. Aujourd'hui, vous avez 5 millions qui font la même chose.
Plusieurs intervenants ont également insisté sur la nécessité d'améliorer l'organisation de la circulation et le respect du code de la route. Omar Kigalo estime que la modernisation du contrôle routier peut contribuer à fluidifier le trafic et à renforcer la discipline des usagers.
Il faut moderniser la ville de Kinshasa. On doit numériser les véhicules, les conducteurs. Ailleurs, et même si vous brûlez les signaux routiers, ça signale automatiquement. Autre cause, c'est la condition de vie des Congolais. On n'avait pas de moto à Kinshasa.
Parmi les autres pistes évoquées figurent la réhabilitation du train urbain, le développement du transport fluvial, l'amélioration des transports en commun, ainsi qu'une gestion plus moderne du trafic. Pour les participants, seule une approche combinant infrastructures, aménagement urbain et diversification des modes de transport permettra de réduire durablement les embouteillages dans la capitale.
Actualité internationale.
Au Mali, la Cour suprême refuse de statuer sur le dossier de Clément Dembélé, militant anticorruption en prison depuis novembre 2023. Soupçonné d'avoir menacé de mort le président de transition, le général Assimi Goïta, dans un enregistrement qui avait circulé sur les réseaux sociaux, Clément Dembélé avait rapidement été blanchi. La justice malienne a même ordonné sa libération, mais ses péripéties judiciaires n'ont jamais pris fin. Hier lundi 15 juin, un nouvel épisode, pour le moins grotesque, s'est joué devant la Cour suprême. Résultat, cette figure de société civile est maintenue en prison.
L'invité.
L'invité de ce journal est le vice-doyen chargé de l'enseignement à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Kisangani. Le professeur Jean-Paul Lisselé parle des causes de la hausse des prix des produits alimentaires sur le marché local. Il propose en même temps des pistes de solutions pour éviter que cette situation ne devienne un véritable cauchemar pour les ménages. Il s'entretient à Kisangani avec Jacques Moukonkoli.
Professeur Jean-Paul Lisselé, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous observez le marché de Kisangani depuis des années. Aujourd'hui, le panier de la ménagère a explosé, les prix ont doublé. Le ministère provincial de l'économie refuse de s'attarder sur les causes et veut foncer sur les solutions. Et c'est une erreur. Peut-on guérir une maladie sans poser un diagnostic?
Oui, nous assistons à une flambée de prix de produits de grande consommation dans la ville de Kisangani depuis quelques semaines. Les prix de certains denrées ont pris l'ascenseur. Il y a des prix qui ont doublé et cette situation inquiète. Alors, la posture prise par le ministre provincial qui cherche à s'attaquer aux solutions au lieu d'identifier les causes serait pour notre part une erreur car on devrait apprendre des expériences. Identifier le problème à la base de cette flambée de prix, par la suite ou dans les jours à venir, apporter des solutions durables et efficaces au problème, si jamais ça revenait.
Parmi les causes évoquées par les vendeurs et vendeuses, c'est l'impraticabilité des routes, mais une société d'import-export qui vend des produits explique cette situation par la rupture des stocks due au manque de bateaux pour acheminer des vivres frais et de riz à Kisangani. Qu'en pensez-vous?
L'impraticabilité des routes, la rupture des stocks, oui, ce sont des raisons évoquées par les uns et les autres, mais nous pensons que ce sont des raisons ou des causes à relativiser, d'autant plus que les haricots, les riz nous proviennent pour les haricots l'Ituri et du Nord Kivu qui nécessitent vraiment un état de route très praticable pour les acheminer jusqu'à Kisangani. Les riz nous proviennent de Opala, de Bumba ainsi que de la route Kisangani-Banalia qui est aussi à un état de délabrement très avancé. C'est vraiment à relativiser parce que pour le vivre fait, cette rupture-là de stock est beaucoup plus soutenu par le problème de navigation, le problème des bateaux. Alors, pour ce point, moi je pense que c'est à relativiser. L'impraticabilité des routes justifie une flambée de prix des riz sur le marché de la ville de Kisangani.
Alors, comment approvisionner la ville? Le ministère veut des solutions immédiates. Il demande aux sociétés d'import-export à passer commande à Kinshasa pour qu'on amène les produits à Kisangani. Si vous étiez ministre provincial de l'économie aujourd'hui, que feriez-vous concrètement dans un bref délai?
Si j'étais ministre provincial, qu'est-ce que je mènerais comme action? Le gouvernement provincial, par l'entremise du ministre provincial ou du ministère provincial de l'économie, devrait trouver des voies et moyens entrer en contact ou s'approcher des compagnies aériennes pour voir et étudier la possibilité de faire venir les vivres, de passer des commandes de manière permanente pour éviter des éventuelles ruptures de stock pour que le marché de Kisangani soit toujours bien alimenté. En le faisant ainsi, nous ne connaîtrons pas les problèmes de rupture ni les problèmes de retard dans l'approvisionnement de sociétés ou de magasins.
Ces mesures à prendre urgemment, c'est pour soulager la population à court terme. Comment faire pour que dans 6 mois ou à la prochaine saison des pluies, qu'on ne revive pas ce même cauchemar?
Il y a des solutions à prendre à très court terme et d'autres solutions à moyen terme pour éviter que ce problème puisse encore revenir dans la société ou dans la ville de Kisangani. Je pense que il serait mieux de penser comment réhabiliter, construire et reconstruire les bonnes routes d'intérêt communautaire et en mettant beaucoup plus l'accent sur la réhabilitation durable des routes de desserte agricole. Parce que ce sont ces routes de desserte agricole qui permettent à ce qu'il y ait une bonne évacuation de la production à partir des champs jusqu'à atteindre les routes d'intérêt communautaire et par la suite ces routes ravitaillent les grands centres de consommation. Et dès lors que les routes de desserte agricole connaissent des difficultés, la production des agriculteurs qui se trouvent dans les interlands de Kisangani, au-delà des 100 km de Kisangani, cette production-là risque de pourrir en brousse et dans les champs avant d'atteindre même les centres de consommation.
Professeur Jean-Paul, merci d'avoir répondu à nos questions.
Et c'était notre invité, Lévis Douin, chargé de l'enseignement à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kisangani. Le professeur Jean-Paul Lucelé s'entretenait avec Jacques Moukonkolé. Fin de ce journal qui a été préparé par Élisée Tikota et Alain Irung. Dédoné Nyangassa a assuré la technique et Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.